Le temps de 2-3 questions si vous souhaitez des compléments d'informations éventuellement sur ces présentations. On va commencer par madame et puis ensuite madame à droite. Moi j'en avais une par rapport aux médecins généralistes. Comment vous avez essayé de les motiver à participer? Parce que visiblement ils n'ont pas fonctionné, mais est-ce que vous êtes passé par des structures représentatives ou directement auprès de médecins eux-mêmes?
Bon, alors on avait... D'une part, on a associé l'URPS dans le comité de pilotage. D'autre part, avant de commencer, on avait pris contact directement avec les trois maisons de santé pluridisciplinaires du territoire projet pour les rencontrer, essayer de leur expliquer le projet et puis les associer. Et on avait également prévu un dédommagement pour... parce que voilà, c'est souvent un sujet, et manifestement, ce n'est pas le seul problème, puisque ça ne suffit pas. Donc on a quand même, voyant qu'il ne venait pas aux réunions, on a organisé quelques réunions, 2 à 3 réunions spécifiquement. On est allé les rencontrer le soir pour pouvoir, avant de finaliser la phase diagnostique et avant de finaliser la phase du plan d'action, pouvoir discuter avec eux, échanger avec eux, avoir leur avis. Et c'est extrêmement important. Enfin, je pense que c'est absolument indispensable. Mais par contre, on n'a pas réussi à les impliquer plus que ça.
Madame.
Oui, j'ai une question pour vous, docteur Dugas. Donc, Dominique Lachat, je suis directrice adjointe au siège de Roufac dans le Haut-Rhin.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît?
Oui. Donc, je voudrais savoir si dans vos trois secteurs, il y avait des conseils locaux de santé mentale.
Non, pas dans ces secteurs-là, mais il y en a qui sont en fait en gestation, quoi, en construction.
Parce que je pense que ça aurait été facilitant par rapport à la démarche de rencontre des partenaires que vous avez cherché à mener.
Bien sûr.
Mais ça peut en découler effectivement à l'issue du travail.
Merci, madame.
Oui, effectivement, je reviens vis-à-vis de l'interlocutrice de l'ARS Bretagne, que je remercie pour sa présentation très concrète. Je voulais revenir sur le plan d'action, parce qu'en fait, pour être nous-mêmes sur la Vendée au démarrage de la démarche, je trouve le plan d'action encore très médicalisé. La plupart des actions ont une consonance sanitaire. C'est un projet territorial de santé mentale. Et ma question, parce que ça touche aussi à l'implication de l'ensemble des partenaires concernés, aussi bien au début de la démarche qu'à la fin, quid de l'engagement et de l'attente d'un certain nombre d'entre eux? Je prends des exemples précis sur la problématique de rupture, du parcours. Les collectivités locales, on attend les communes, notamment sur l'accompagnement des usagers qui habitent en ville le week-end, qui est un moment de grande déshérence, pour ne pas dire de grand désert. Quel en a-t-il de l'engagement des attentes des logements sociaux, des partenaires du logement social qui ont tout à fait leur place dans le duo logement adapté et accompagnement en soins? Et un autre exemple, puis de l'éducation nationale, par exemple, j'ai des échanges avec eux très, très importants sur effectivement le repérage au niveau des enfants, des ados. Ils estiment que ce n'est pas de leur fait, donc ils trouvent qu'il y a effectivement... une perte de chance dans la rupture, dans le parcours du jeune usager. Voilà, des questions très concrètes qui, à mon sens, au niveau d'un projet territorial de santé mentale, devraient, sauf à ce qu'il n'y ait aucun problème de cet ordre-là sur le territoire qui a été examiné, sauf à ce qu'il n'y ait donc pas de problème, je me dis que voilà, un plan territorial de santé mentale doit aussi comprendre et les attentes et des actions qui, finalement, ont moins un caractère sanitaire et impliquent d'autres acteurs et permettent au final que le parcours puisse limiter les ruptures.
Merci madame. Pour le logement, vous aviez répondu, parce que vous avez dit que les bailleurs sociaux s'étaient impliqués, je crois, non?
Oui. Alors, oui, j'entends ce que vous dites. Ça peut paraître assez sanitaire, même si c'est quand même pas que sanitaire, puisqu'il y a quand même la formation croisée, c'est pas sanitaire. La révision du processus d'évaluation du handicap psychique par la MDPH, c'est pas sanitaire. Enfin, les travaux sur les critères d'admission en ESMS, le GEM, enfin, il y a quand même... Voilà, mais il y avait aussi des actions sanitaires. Les acteurs du logement, on les avait associés dans tous les travaux. Et ça a été très important, je pense, pour l'ensemble des acteurs. Dans les discussions, ça a été très important. On n'a pas eu effectivement d'action directement liée à ça. Et peut-être c'est dommage. Mais c'est toute la difficulté là de la priorisation où il a fallu. Alors on était dans un tempo projet expérimental, un an. Je pense que le PTSM, ça va être autre chose. On est dans un autre calendrier, une autre ampleur de démarche. Mais par contre, ça a eu des effets indirects. C'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure de synergie, je n'ai pas voulu détailler, mais on a, par exemple, nous, ARS, lancé un appel à candidature pour accompagner l'évolution de l'offre en santé mentale. Dans cet appel à candidature, on appelait des projets sur différents axes, et notamment un des axes, c'était trouver des alternatives plus adaptées à des gens qui sont actuellement hospitalisés au long cours. Et en synergie de notre appel à candidature, alors qu'il y avait en même temps ce projet qui courait, qui se faisait, il y a eu du coup des propositions du centre hospitalier Guillaume Régnier en lien avec des acteurs du logement social pour travailler sur des projets de logement adapté, etc. Et on a pu financer des projets de ce type-là. Donc ça a été, vous voyez, indirect, mais
bien.
Ça a eu lieu.
On va vous remercier, mesdames. Je vais vous inviter à retourner dans la salle et vous remplir.